La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 20 janvier 2026 et sauf si vous vivez dans une grotte, vous avez tous vu passer la traîne sur Instagram qui consiste à ressortir des photos de nous il y a 10 ans, en 2016 donc. Moi, il y a 10 ans, j'avais 16 ans. Ouais, on dirait pas comme ça, mais je suis vieille. J'étais au lycée, je découvrais le monde associatif, j'étais encore pleine d'innocence et je pensais que 10 ans plus tard, j'allais être propriétaire, avoir un mari et que mes amis du lycée seraient les mêmes. Genre, à tout jamais, jusqu'à la mort nous sépare et que le gribouillis qu'on avait écrit au feutre dans la cour du lycée ne s'efface. Résultat, on est en 2026, je suis locataire, célibataire et mes amis ne sont plus du tout les mêmes. J'irais même, heureusement, qu'ils ne sont plus du tout les mêmes. Alors, parce qu'en 10 ans, on grandit, on évolue et surtout on apprend que nos amitiés les plus profondes sont celles qui ne se calculent pas. Ce sont celles qui sont liées par les mêmes valeurs profondes, par des connexions intellectuelles et non pas par le simple fait qu'on se voit tous les jours dans le même lycée. Je ne renie pas ces amitiés, elles m'ont beaucoup apporté. Mais disons que, en regardant des photos de cette époque sur Facebook, je me suis dit que, heureusement que j'ai grandi. Nous sommes le 20 janvier 2026 et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est normal qu'en regardant ces photos, vous vous sentez mal à l'aise. Tout le monde se sent mal à l'aise quand on regarde vers le passé. Et encore plus quand c'était 10 ans avant. En 10 ans, moi j'ai grandi, on évolue, on change de vie, d'appart, de métier et même de pote. En 10 ans, j'ai fait une thérapie et j'en ai commencé une autre. Aujourd'hui, j'accepte un peu plus qui je suis avec mes défauts et mes qualités. Mes amis ne sont plus les mêmes, ma culture a changé, mon quotidien aussi. Et j'ai compris que je méritais mieux que des relations superficielles. Alors heureusement que tout a changé, parce qu'aujourd'hui, en 2026, j'ai compris que mes amitiés les plus importantes sont souvent celles qui ne sont pas imposées, mais celles qui sont bien évidentes. Dans l'entretien de la matinale, avec Anaïs, nous recevons Cassandra du Point Levé pour parler de l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers à Paris-Sorbonne. Dans la deuxième partie, Vladimir recevra Lily Gaumont de la compagnie Le Furor Poético pour la pièce Ceci est un adieu au langage pour le Zoom. Le Flash Info sera présenté aussi par Vladimir. Tiana nous parlera des librairies indépendantes attaquées dans Paris. Et Julie nous fera une chronique libre. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris en Ile-de-France. Et tout de suite, c'est l'entretien de la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Cassandra, bonsoir.
Salut.
Bonsoir, merci Diane pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise qui secoue les couloirs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le 1er septembre dernier, une décision est tombée, une lourde décision, actée par un vote extrêmement serré au conseil d'administration. 18 voix contre 15. Le résultat ? Dès la rentrée 2026, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires vont exploser. On parle de passer de 178 euros à près de 2900 euros en licence et de 254 euros à près de 4000 euros en master. La mesure concerne tous les étudiants étrangers, sauf les ressortissants des pays membres de l'Union européenne, les étudiants en exil et ceux provenant des 44 pays définis par les Nations unies comme les moins avancés. La présidente de l'université, Christine Nolleduc, parle d'un déchirement nécessaire face à un budget insoutenable et un manque de soutien de l'État. Mais pour une partie de la communauté universitaire, c'est une ligne rouge qui a été franchie. Entre critiques de préférence nationale et précarisation des chercheurs, la riposte s'organise. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Cassandra, une militante du collectif Le Point Levé de l'université Paris 1 Sorbonne. Bonjour Cassandra, merci Coucou. D'être avec nous. Ma première question, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce que le Point Levé, comment s'est-il organisé, quand et pourquoi s'est-il constitué et quel rôle aujourd'hui joue-t-il dans la mobilisation contre la réforme qui a été annoncée le 1er septembre dernier?
Oui, bah déjà, merci de m'avoir invitée. Le Point Levé, oui, c'est un collectif étudiant, révolutionnaire et anticapitaliste qui est sur 19 facs dans toute la France, donc nationale, mais qui est aussi particulièrement actif à Paris 1, Sorbonne, mais aussi dans d'autres facs de Paris, genre Paris 8, aussi UPC, etc. Et nous, on revendique, enfin, on s'est constitué pour revendiquer une université ouverte à tous et à toutes, gratuite, ouverte notamment aux classes populaires et aux étrangers, et dont les savoirs seraient utiles non pas aux entreprises privées, mais au plus grand nombre. Et pour ça, on pensait que c'était important de constituer un collectif politique qui fasse en sorte d'organiser des contestations étudiantes et qui soient auto-organisées dans le sens gérées par les étudiants elles et eux-mêmes, soient largement dans les mobilisations, c'est-à-dire les mouvements des femmes, les mouvements LGBT, etc., et en alliance avec les travailleurs et les travailleuses, puisque on est un collectif politique étudiant, mais on est aussi un collectif qui est lié à Révolution Permanente, une organisation politique nationale aussi, et on considère que pour libérer les étudiants et avoir une meilleure université, ça passe aussi par changer le système.
Ok. Et en tant que collectif politique, comment vous allez vous mobiliser contre une réforme telle quelle qui va donc augmenter les frais d'inscription d'études des étudiants étrangers ?
Ouais, c'était la deuxième partie de la question, j'ai oublié.
Pas grave, là, pour ça.
Mais en gros, quand nous, on est élus au conseil d'administration de Paris 1, et donc du coup, comment est-ce qu'on s'est mobilisé dessus ? C'est avant tout à partir des informations qu'on avait eues et qu'on a utilisées pour lancer une mobilisation, parce que c'est comme ça qu'on considère notre rôle d'élu. Et donc, au moment où on a su ça, on a commencé à politiser la question, parce qu'en fait, personne ne savait, et il fallait que ça devienne un sujet politique sur l'université. Donc, on a organisé des tables sur plusieurs centres où on récoltait les témoignages des étudiants étrangers pour avant tout déconstruire un truc, c'est que les étudiants étrangers sont en fait des enfants bourgeois qui ont énormément de moyens et donc pour lesquels c'est légitime d'appliquer une augmentation de frais d'inscription. Ça, c'était la première étape. Et après, évidemment, on a organisé des comités où les étudiants étrangers, mais aussi les personnels et les autres étudiants de la fac pouvaient discuter de savoir comment s'organiser. Et on a organisé à partir de là des assemblées générales plus larges, des moments de mobilisation où on a empêché de se tenir les conseils d'administration qui devaient voter en présentiel le budget ou la mesure en tant que telle, et on a aussi nourri toutes les autres formes de mobilisation de nos énergies, de la créativité qu'on pouvait avoir avec des affiches, etc., quand il y avait des blocages, enfin voilà, en fait on a beaucoup défendu l'auto-organisation, le fait que les décisions se prennent non pas dans le conseil d'administration, mais dans les assemblées générales qui réunissent la majorité des étudiants et personnels de la fac, et après on a participé à toutes les initiatives qui avaient été prévues dans ces assemblées générales.
Et juste, vous parliez du coup d'avoir récolté des témoignages. C'est quoi du coup qu'est-ce qui ressort des témoignages que vous avez récoltés ? C'est quoi la parole des étudiants étrangers du coup ?
C'est avant tout une peur qui est entièrement politique, c'est-à-dire une peur de la répression, parce qu'en fait le fait de récolter des témoignages, ça implique aussi d'aller au-devant des personnes qui ne souhaitent pas s'exprimer, et ça c'est du coup, on va dire, le non-témoignage, mais qui révèle aussi une peur
de la répression de la direction de l'université.
En fait on est dans une université qui est quand même à l'avant-poste des répressions étudiantes sur Paris, mais même en France, parce qu'elle est aussi à l'avant-poste des politiques austéritaires, etc. Donc du coup, il y avait un intérêt pour la présidence de faire peur, que ce soit au moment des mobilisations palestines, au moment de toutes les autres mobilisations qui se sont passées par ailleurs. Et après, on est aussi dans un État français qui réprime toutes les personnes, notamment sans papier, et les personnes racisées. Donc en fait, au-delà d'avoir peur de la répression dans Paris 1, les étudiants avaient peur de la répression par la police si leur voix était publicisés et qu'on apprenait que, par exemple, ils n'avaient pas pu renouveler leurs papiers, du coup, ils étaient sans papiers, donc en fait, illégalisés. Donc ça, c'est la première catégorie. Et après, la deuxième catégorie, c'est des gens extrêmement en colère qu'il puisse y avoir une telle mesure qui soit appliquée sur eux et qu'on puisse raconter, déjà faire un chantage au budget qui leur tombe dessus, comme s'ils étaient une variable d'ajustement dans l'université, alors que l'université, en fait, c'est fait pour enseigner à tous les étudiants, et en particulier aux étudiants étrangers qui sont dans des situations très précaires et qui cherchent à s'émanciper. Mais aussi parce que ils sont dans une situation pour la plupart de précarité déjà très importante, que ce soit sur on va dire une précarité économique. On a eu des témoignages d'étudiants qui nous disaient, en fait, je ne peux pas manger autre chose que des pâtes et de la sauce tomate ou du riz et de la sauce tomate tous les soirs. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais partir de l'université, je ne vais pas pouvoir continuer. Ouais. Je travaille déjà, mes parents ne peuvent pas m'aider. Et puis aussi, ils racontaient une réalité qui, il me semblait, hyper importante pour comprendre cette mesure et ses conséquences, pas seulement sur Paris 1, mais aussi de manière générale, à quoi est-ce qu'elle mène. C'est, ils disaient qu'ils venaient de pays qui avaient été anciennement colonisés par la France ou par une autre puissance impérialiste. Mmh. Et en fait, que l'augmentation de ces frais d'inscription était tout simplement impossible à gérer, puisque la monnaie, du fait de la spoliation des ressources, du fait de l'état de domination dans lequel sont encore ces pays, était impossible à affronter. Mais aussi, ils exprimaient une colère vis-à-vis du renforcement du rapport néocolonial qui pouvait exister entre leur pays et la France, qui, en plus de spolier les ressources, que ce soit au moment de la colonisation, mais aussi désormais, leur fait payer le fait que leur université et donc les services publics de leur pays ne soient pas à la hauteur, etc.
Pour revenir à ce que tu avais dit par rapport au fait que vous êtes un collectif politique et que du coup, une de vos méthodes aussi de mobilisation, c'est de politiser certains faits, certaines du coup réformes apportées par l'université. Sur vos réseaux sociaux, vous qualifiez cette mesure de xénophobe et raciste. Est-ce que tu peux revenir sur ces termes-là? Qu'est-ce qui vous a amené à employer ces termes en relation avec la réforme?
Bah oui, déjà, c'est dans la continuité de ce que je disais. Mais après, je pense qu'il faut élargir la focale. C'est qu'on ne menait pas cette lutte à Paris juste pour pas rien. Déjà, il faut voir que la situation en France, c'est que les étudiants étrangers sont attaqués de toutes parts, et les étrangers de manière générale, dans un contexte austéritaire où on en fait croire en fait que le problème dans la France de Macron, c'est les étrangers qui prendraient trop de ressources. C'est la manière dont l'UNI, la cocarde font beaucoup politique, mais aussi aujourd'hui Macron et tout son gouvernement qui va dans la même direction. Et évidemment, l'extrême droite parlementaire. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un projet de suppression des APL pour les étudiants étrangers. Il y a une répression administrative très forte qui pèse sur tous les sans-papiers et donc les étrangers. Et là, on a qualifié cette mesure de préférence nationale et de raciste a fortiori, qui est en fait la continuité de la préférence nationale. À la question « Où trouver l'argent ?» pour les universités, on ne répond pas il faut le trouver auprès des plus riches, ceux qui se font des centaines de milliards de bénéfices, les entreprises privées qui ont des aides du gouvernement qui sont titanesques. Mmh. On ne répond pas sur l'armée qui a eu 7 milliards de plus attribués au dernier budget. On répond, c'est aux étrangers de payer. Mmh. Ça contribue à déjà invisibiliser le vrai problème aujourd'hui et surtout à continuer l'oppression des étrangers qui vient servir la continuation d'une austérité et sa légitimation, quoi.
Et la présidence, en réponse à ces accusations, notamment de discrimination, avance comme argument que les étudiants des 44 pays les plus pauvres, définis par les Nations Unies, donc on parle majoritairement de l'Afrique subsaharienne, resteront exonérés. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement de cette réponse?
En quelques secondes, parce que après, on va passer une pause musicale. Mais vous pourriez répondre après, si vous voulez.
Je réponds très rapidement. C'est une manière de rendre plus acceptable la situation, alors même que les personnes, la majorité des personnes qu'on a interviewées, et en fait la majorité des étudiants précaires et étrangers de notre université, c'est des étudiants maghrébins, c'est des étudiants d'Amérique latine, c'est des étudiants
de Turquie. Donc la majorité
de Turquie,
des étudiants étrangers qui viennent étudier du coup à la Sorbonne et voilà qu'ils ont accès en fait.
Exactement. Et en fait du coup ça permet de légitimer, de dire on va pas précariser davantage et on va garder uniquement ceux qui ont les moyens de payer, mais en fait c'est entièrement faux et ça vient juste permettre à la mesure de passer.
Super. Et ben on va se laisser sur ces beaux mots et on va passer à une petite pause musicale. On va écouter Billy Boyo in the area de Billy Boyo.
Y el Billy Boyo, así claro. Yo macho pa' en días el pía. Yo madre. Yo sí que yo sad, I lost all of the air. Billy Boyo, come to make a musical glad. My God. Can't believe boy in the era, murderer. Can't yellow man in the era, murderer. Can't put party in the era, murderer. Can't live on cliff in the era, murderer. Believe boy on the root, me say and culture. Can't believe boy on the sentiment, you murderer. Come on, me drink soft drink, and sometimes liquor. I drink soft drink, and sometimes liquor. Tell you, Billy Boy, you're at the mic center. And anyway, me got a roots and culture. Little arena, the era, murderer. Ka Billy Boy, you're not the era, murderer. Ka yellow man, you're not the era, murderer. Ka me say fathead, not the era, murderer. Ka Welton arena, the era, murderer. Ka me say Buru, not the era, murderer. Ka Peter Mechena, the era, murderer. Ka Little Arena, the era, murderer. Ka me say Harry come from far and come out Oakland. Me say when we there at Oakland, say we ram session. Ka me and Little Harry in a combination. Ka tell you believe when I run competition. Ka me too international. Jamaica till you say me too international. Jamaica till you believe when you in the partial. Jamaica till you believe boy you well official. Jamaica till you believe boy you in the local. Can watch a man anywhere me go well official. Cause sometime in a BMW, sometime rental. The other time me blast pass Port Royal. The other time me blast pass in Central. Can't believe why yo, him no go a funeral. Little arena the era, murderer. Can't believe why you na the era, murderer. Can't John Jolas in a the era, murderer. Can't Oakland pass in a the era, murderer. Can't London pass in a the era, murderer. Can't New York pass in a the era, murderer. Can't Canada pass in a the era, murderer. The mic chanting, little Harry at the mic, me say enchanting. Yellow man at the mic, me say enchanting. Welton Harry at the mic, me say enchanting. Me say Buru at the mic, me say enchanting. Little John at the mic, me say I'm singing. Little John in the era, murderer. Can't believe boy you're under roots and culture, murderer. Can't believe boy you're sensing me in ya, murderer. Can't yellow man in the era, murderer. Batayan in the era, murderer. Most DJ, when them run out of lyrics. Most DJ, them a go like gimmicks. When me dey a school, that a cheese can chase. Listen for me lesson, man, me true wriggles. But when me in a dance, that a strictly Guinness. Billy Boy in the era, murderer. Little Harry in the era, murderer. 2DJ at the mic MC. Come on, green sleeve, and you will get to help.
Vous écoutiez Billy Boyo in the area de Billy Boyo. C'est la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h20 et on reprend notre entretien avec Cassandra du Point Levé, animée par notre chère Anaïs. Anaïs, on est en train de parler de quoi déjà avant la pause musicale?
On parlait de du coup la nouvelle réforme qui a été annoncée le 1er septembre dernier, qui touche les étudiants étrangers extracommunautaires qui vont maintenant devoir payer des frais assez hauts pour étudier. Et du coup, Cassandra, en tant que militante du Point Levé, nous faisait part, on va dire, des conséquences de cette réforme, des différentes formes de mobilisation en tant que collectif politique à Paris 1. Et donc là, je reprends, parce qu'il faut quand même le rappeler, le contexte de cette réforme, c'est qu'elle s'inscrit dans la continuité de la stratégie Bienvenue en France, qui a été lancée en 2019. Est-ce qu'on pourrait pas dire bienvenue en France, sauf pour les pauvres au final? Est-ce que vous craignez pas que cette hausse pour les étrangers, ce ne soit pas un premier pas, un peu un sorte de ballon d'essai avant une augmentation généralisée des frais pour tous les étudiants à l'avenir?
Ouais, bah c'est exactement ce qu'on disait. Enfin, en fait, c'est la manière dans laquelle on a approché la mobilisation. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas un hasard que Bienvenue en France existe et s'accompagne par ailleurs de suppression de places, de retard de bourse, de difficultés générales pour les étudiants précaires à pouvoir étudier correctement. C'est que en fait, il y a un plan général du gouvernement pour rendre certaines facs beaucoup plus sélectives et d'autres, et donc beaucoup plus élitistes, et d'autres les rendent des facs complètement poubelles, et en parallèle tout simplement baisser le nombre d'étudiants global, parce que c'est devenu insurmontable pour le patronat français d'avoir autant de qualifications pour les étudiants qui, alors que eux cherchent une main d'œuvre pas chère, exploitable à merci, et donc en fait il y a une incompatibilité entre l'existence actuelle de la fac et le plan du patronat et donc du coup du gouvernement français actuellement. Et nous du coup on disait pas faisons une mobilisation pour les étudiants étrangers uniquement parce que c'est une mesure raciste, bien que c'est effectivement le cas, mais aussi parce que ça va nous atteindre tous et qu'en fait il s'attaque à un pan de l'université qui est des plus marginalisés, des plus fragiles, pour derrière rendre plus acceptable l'attaque à tous les autres secteurs de l'université. Et d'ailleurs, on a parlé des étudiants étrangers, mais il y avait aussi quelques autres diplômes dont on n'a pas vraiment entendu parler et qui sont vraiment, vraiment des effectifs faibles par rapport à l'ensemble de l'université. L'objectif, c'était de combler les trous, de faire comme si on comblait les trous avec un peu de revenus, mais en fait, de s'attaquer aux plus sensibles. Et derrière, effectivement, c'est pas un hasard non plus que ce soit Paris 1, une des facs les plus connues de France, qui applique parmi les premiers. Bon, même si au moment de Bienvenue en France, il y avait eu une dizaine d'universités qui avaient choisi d'appliquer ces frais d'inscription. Mais là, c'est une nouvelle vague et c'est Paris 1 qui en prend la tête. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que si cette mesure passe, derrière, le risque, c'est que ça passe pour toutes les autres universités. Et c'est pour ça qu'il y a une importance à se mobiliser avec les étudiants, mais aussi avec les travailleurs, parce qu'en fait, ce plan-là, il concerne aussi d'austérité et de réduction des effectifs, etc., de changement de la phase de l'université. Il concerne aussi les travailleurs et les travailleuses de la fac, puisqu'aujourd'hui, ils sont en surcharge de travail. Et le budget qui est passé, il concerne aussi encore des réductions d'effectifs qui vont les concerner et impacter aussi les étudiants. Bref, c'est un plan général face auquel on s'attaquer. Et évidemment, pour ça, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il faut une alliance entre les étudiants et les travailleurs de la fac, parce qu'en fait, ça nous concerne tous et toutes. Et voilà, ça doit répondre à ta question.
C'est déjà très très bien comme réponse. Oui.
Écoute, toujours dans cette même ligne un peu directrice de notre discussion, essayer de décentraliser cette réforme pour comprendre les conséquences outre que simplement la hausse des frais. Il s'ajoute à cela en fait la menace aussi, notamment tu l'as dit, de suppression des APL pour les étudiants étrangers. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour un étudiant étranger qui souhaite étudier à Paris 1 ou à Paris en général en fait?
Par exemple, j'ai posté une vidéo sur Insta où je dénonçais en facecam les mesures. Et derrière ça, j'ai reçu énormément de messages, notamment d'étudiants algériens, tunisiens, colombiens, vénézuéliens d'ailleurs, qui me disaient « En fait, je viens d'apprendre ça, mais j'ai candidaté pour être étudiant à cette fac, je ne pourrais pas venir étudier. » Et je compte sur cette mobilisation, elle me donne énormément d'espoir. Et après, bon, s'en sont suivies d'autres discussions plus politiques, mais qu'est-ce que ça représente pour elles et eux? C'est soit tu te mets à travailler 35 heures et donc de manière illégale, parce qu'en fait la plupart du temps quand t'as un visa tu es, et notamment quand tu es algérien, etc., puisqu'il y a une législation différenciée issue de la colonisation, tu peux pas travailler autant qu'un étudiant français. Mais après il faut aussi voir que en fait travailler quand t'es étudiant, c'est te confronter à à des études qui sont remises en question. Enfin, je pense que tu me disais que tu étais en sciences politiques aussi. Enfin, on a vu autour de nous des étudiants précaires, travailleurs, qui devaient abandonner leurs études parce que c'était juste insoutenable. Mmh. Et puis après, bah, y a tous ceux qui
sont limités aussi par le nombre d'heures. Enfin, je veux dire, avec leurs papiers, ils sont obligés de travailler maximum 10 heures.
Oui. Et en plus de ça, dans des travails d'alimentaire qui ne sont pas, sains en termes de conditions de travail, etc., qui sont fatigants.
Ah bah ça, oui.
Donc c'est aussi ça, ça a aussi un impact sur du coup, l'apprentissage, le fait que tu as du temps pour tes études, etc. Ça a aussi un grand impact émotionnel.
Et est-ce qu'au sein de vos mobilisations, vous comptez des étudiants étrangers que ça soit de licence, de master.
Ouais, ça c'était l'élément le plus impactant et fort de la mobilisation. C'est que bon, le premier, c'était qu'en fait on a réussi à retourner l'université contre la présidence et même les discours gouvernementaux. En fait, on a politisé tellement la question largement que la mesure est devenue très très impopulaire. Mmh. Et c'est aussi pour ça, tu disais, Christine Nolleduc a proposé de restreindre ça, enfin d'enlever les étudiants étrangers issus des pays
les moins avancés
entre guillemets. C'était un recul pour mieux avancer, mais parce que aussi il y avait une impopularité énorme. Et autre signe de l'impopularité, c'est la répression très importante qui s'est abattue sur la mobilisation et qui avait, je pense, et enfin, comme on analyse au point levé, pour objectif notamment de faire déserter les étudiants étrangers, parce que quand tu vois arriver des policiers dans ton centre à Panthéon, parce que c'est ce qui s'est passé le 11 décembre, au moment où on a manifesté devant le conseil d'administration de manière pacifique, et où ensuite on a convoqué une assemblée générale dans laquelle toutes les personnes qui s'étaient mobilisées pouvaient discuter de la suite de la mobilisation, à ce moment-là, il y a eu intervention policière. Il y avait des dizaines de camions de police qui étaient déployés autour. Et bon, évidemment, il y a de la solidarité qui s'est créée, on a protégé les étudiants étrangers, mais moi, je comprends qu'il y ait une peur qui s'installe, et c'est exactement ce que cherchait à faire la présidence. Heureusement, la solidarité a primé et personne n'a été atteint, beaucoup de monde ont été rassurés, etc. Mais voilà, moi, je pense que ça dit aussi quelque chose l'impopularité qui est devenue qu'a eu cette réforme et de la politisation générale de la fac. Et après, ça dit aussi quelque chose du rôle d'une présidence d'université et bien d'un conseil d'administration, parce qu'on nous dit souvent votez pour vos représentants, votez pour le conseil d'administration, c'est l'instance représentative. C'est une instance qui a été mise en place par le gouvernement au moment de mai 68, parce qu'il y avait des mobilisations étudiantes tellement fortes qu'il fallait bien essayer de trouver une manière de les canaliser. Et donc, voilà.
Merci.
Une dernière question peut-être pour clôturer.
En fait, j'aimerais bien souligner quand même qu'affectés par cette mesure, en plus des étudiants étrangers, sont les doctorants contractuels, le personnel administratif. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais récemment, un groupe de doctorants a annoncé s'engager dans une rétention des notes comme forme de mobilisation. Et je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu penses que ça va faire pression sur la présidence de manière efficace? Et on va dire d'un deuxième volet, est-ce que tu penses que la mobilisation, elle va pouvoir... Est-ce qu'il y a un espoir qu'elle peut encore faire reculer la présidence d'ici la prochaine rentrée 2026?
Oui, moi je suis de toute manière éternellement optimiste, parce que je considère que en fait si on veut réussir à avoir nos revendications, notamment sur cette mobilisation-là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à se mobiliser. Pas n'importe comment, et je considère, et c'est hyper intéressant que les doctorants se joignent à la bataille, et ils l'ont toujours fait. On rejoint les mobilisations, et nous on invitait même au-delà des doctorants les profs, les personnels administratifs, les personnels même du CROUS, etc., à nous rejoindre, parce que en fait, au-delà de continuer la mobilisation, il faut voir que elle réussit aussi quand on met à l'arrêt l'entière université, et pas seulement les étudiants, parce que ceux qui font tourner l'université, c'est aussi les travailleuses qui sont aux manettes, dans l'ombre, quoi. Même le personnel de nettoyage, même le personnel, je disais, administratif, etc. Donc pour moi, c'est hyper progressiste. Ça peut effectivement être un levier de pression. Mm. Mais en tout cas, ce qu'il faut penser, c'est pas de manière isolée en secteur, mais de manière coordonnée. Global. Et c'est en tout cas la raison même d'exister du point levé, c'est de permettre aux mobilisations étudiantes de se coordonner avec l'ensemble des mobilisations, que ce soit dans l'université, mais aussi de manière générale, parce que changer l'université, ça implique quoi ? Ça implique de changer de manière générale l'organisation de la société, où tu as la possibilité de réformes austéritaires parce qu'en fait, on protège les intérêts des plus riches.
Merci beaucoup, Cassandra. C'était un plaisir de te recevoir à Radio Campus. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette interview. Merci. Et maintenant, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Vladimir, c'est à toi.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous. À l'actualité en France aujourd'hui, le gouvernement va engager sa responsabilité pour faire adopter le budget de 2026 sans vote de l'Assemblée nationale. Trois mois après avoir promis d'y renoncer, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce déclencher l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il compte sur une abstention du groupe socialiste à qui il a fait des concessions dans sa dernière proposition de budget. Le groupe La France Insoumise a annoncé déposer une motion de censure. Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'appel de Paris a entamé cet après-midi l'interrogatoire de Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Front National. Pour rappel, la justice reproche au parti d'extrême droite d'avoir embauché en tant qu'assistant parlementaire européen des personnes travaillant en réalité pour le parti en France, ce qui lui permettait de ne pas les payer sur leurs fonds propres, un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros d'argent public. Marine Le Pen joue dans ce procès sa capacité à se présenter à l'élection présidentielle en 2027. À l'international, on dresse le bilan de la première année du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Sur le plan intérieur, sa présidence a été marquée par l'affaire Jeffrey Epstein, un scandale pédocriminel qui a entaché des proches de Trump ainsi que lui-même. Son administration a durci le ton en termes de politique migratoire à travers le renforcement de la milice ICE qui a multiplié les expulsions à travers le pays. Sur le plan extérieur, les États-Unis ont affirmé leur protectionnisme économique à travers des droits de douane importants et a rompu ses alliances diplomatiques historiques, notamment avec l'Europe, tout en renforçant sa sphère d'influence en Amérique latine. Le monde de la haute couture est en deuil après la mort du couturier italien Valentino à 93 ans. Venu d'Italie à Paris à l'âge de 17 ans pour y étudier la couture, il a d'abord été le bras droit de Guy Laroche dans les années 50. C'est en 1959 qu'il crée de retour à Rome sa maison de couture Valentino. Cette dernière s'est faite une spécialité d'habiller et de sympathiser avec le tout Hollywood, notamment des stars internationales de Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Scarlett Johansson ou Gwyneth Paltrow. Et enfin, et pour finir, le concert caritatif Artists for Aid a récolté 5,5 millions de dollars pour l'aide humanitaire en Palestine et au Soudan. Les fonds ont été versés au Fonds de secours pour les enfants palestiniens et à l'Association des médecins soudanais américains. L'événement a rassemblé des artistes et des donateurs afin de venir en aide aux populations vulnérables de Gaza, de Cisjordanie occupée et du Soudan.
Merci Vladimir. Il est 19h33 et on va marquer une petite pause musicale en écoutant Flesh Eater, j'embrasse Aude qui a fait la programmation, de Wash-Sage Rusine. Oh. 19h37, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on écoutait à l'instant Flèche et Hater de Wojciech Ruzin. Et tout de suite, on va écouter la chronique actu.
Dernier, la librairie LGBT Violette & Co. a été perquisitionnée en raison de la vente d'un cahier de coloriage jugé antisémite. Le syndicat SUD Culture Solidaire dénonce cette énième vandalisation d'une librairie indépendante. Le carnet visé est intitulé « From the river to the sea », de la rivière à la mer, et il fait écho à la formule employée par l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dans les années 1960, mais elle est aujourd'hui employée par le Hamas dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Selon des accusations, ce livre de coloriage remettrait en cause l'existence d'Israël et cela aurait servi à justifier la perquisition par 5 policiers qui étaient accompagnés d'un procureur de la République. La librairie a été fouillée pendant 45 minutes, les cartons de livres ouverts et des lieux filmés. Selon le parquet de Paris, le ministère de l'Intérieur avait, je cite, « dénoncé le fort parti pris historique et idéologique de cet ouvrage ». L'avocat qui représente Violette & Co. parle quant à lui d'opérations illégales et disproportionnées, précisant qu'elles ne reposent sur aucun fondement en droit. Et ce n'est pas la première fois qu'une librairie indépendante est vandalisée. D'autres lieux ont été visés pour une raison identique qui est la vente de livres israélo-palestiniens dans un contexte de tension idéologique. La librairie Petite Égypte à Paris a par exemple été attaquée en novembre dernier en raison de la venue d'une rapporteuse sur les droits humains en Palestine occupée. Des événements similaires ont pu être constatés à Marseille ou à Nantes. Et face à ces violences répétées, un collectif où figurent plusieurs représentants du monde du livre avait signé en octobre dernier une tribune dans Le Monde. On y retrouve Alexandra Charouin-Spangenberg, la présidente du syndicat de la librairie française, ou encore Hélène Brochard, la présidente de l'Association des bibliothécaires de France. Ensemble, ils dénoncent une montée des campagnes de cyberharcèlement et des menaces répétées. Ils soulignent également que ces actes visent des œuvres vendues librement, donc n'ayant pas été condamnées par la justice. Ces actes suggèrent qu'il y aurait une volonté d'imposer une censure indirecte dans les espaces culturels. Le collectif appelle à ne pas banaliser la violence en soulignant surtout le rôle central des librairies dans la confrontation des idées. En effet, toujours selon les signataires, elles incarnent la liberté de penser, de publier, de diffuser et de débattre. Si elles cessent d'accueillir des opinions divergentes sous la menace, c'est tout l'espace public intellectuel qui se fragilise. Et en politique, la droite ne montre pas son soutien, voire même s'oppose à ces lieux culturels. En novembre dernier, au Conseil de Paris, le groupe Changer Paris, issu des Républicains et dirigé par Rachida Dati, a annulé une subvention destinée à 40 librairies indépendantes parisiennes. Cette décision empêche ces librairies d'innover et de se rénover, et à terme de survivre. Finalement, ces événements témoignent bien d'une atteinte à la liberté d'expression dans les lieux de culture, ce qui fragilise ces espaces aujourd'hui plus vulnérables que jamais.
Merci Tiana pour cette chronique culturelle et actuelle. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et ce soir, c'est Vladimir qui reçoit Lily Gaumont pour son spectacle « Ceci est un adieu de langage ». Je te laisse la parole.
Merci beaucoup Diane. Lily Gaumont, bonsoir.
Bonsoir. Merci.
Bienvenue. On est ravis de t'accueillir en tout cas sur Radio Campus à la matinale de 19h. Donc, comme Diane l'a dit, tu viens présenter ta nouvelle création. Donc, c'est un seul en scène qui s'intitule Ceci est un adieu au langage. Je te présente rapidement pour nos auditrices et nos auditeurs. Tu es musicienne, compositrice, metteuse en son et performeuse. Donc, c'est un sacré parcours que tu as eu. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement du coup ton parcours et qui t'a amené du coup à proposer cette création aujourd'hui?
Ouais, avec plaisir. Alors moi, à la base, j'ai un parcours de musicienne classique, j'ai de conservatoire, avec un instrument un peu bizarre, qui est une espèce de tuba qui s'appelle un saxhorn, qui est un instrument français joué par pas grand monde, mais qui est trop cool. Et c'est une grosse trompette grave, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, pendant mon parcours, je suis arrivée à 16 ans à Paris pour venir en horaire aménagé avec le conservatoire à rayonnement régional de Paris pour faire en même temps la musique et des études. Et en arrivant à Paris, en fait, j'ai eu une opération importante pulmonaire qui m'a enlevé toutes mes sensations physiques. Et donc, qui a un peu rebattu les cartes de mon parcours à ce moment-là, parce que dans ma tête, je me destinais plutôt à être musicienne, mais c'était pas encore précis. Je voulais juste rentrer dans une école supérieure, mais sans un but précis. Et en fait, du coup, ce moment d'incapacité physique, de réapprentissage, parce que voilà, j'ai perdu toutes les sensations dans mon corps et ma capacité à jouer. Et donc, ça m'a permis de renouer à quelque chose que j'avais enfant, de revenir à la danse, de revenir à la poésie, de revenir au théâtre, aux arts plastiques, enfin, à plein de choses qui m'animaient. Et du coup, en même temps que cette rééducation, où j'étais toujours au conservatoire, je me suis mise... Enfin, j'ai eu envie d'adapter un opéra. Enfin, j'ai pris La Machine infernale de Jean Cocteau sur laquelle j'étais tombée au bac, où j'avais pas eu une bonne note. Et du coup, on va faire un opéra. Enfin, moi, je voyais de la musique là-dedans et je me dis, il faut qu'on l'adapte en musique. Et du coup, ça a un peu commencé comme ça. Après, j'ai continué
à mélanger, musique et théâtre,
me nourrir. Mais du coup, il y a ce directeur qui était super, Monsieur Delette, que je remercie, qui m'a laissé en fait ce cadre de conservatoire où j'ai une carte blanche pour créer cet opéra avec plein de monde. On était 40. Et du coup, j'ai un peu découvert plein de facettes de métier et où est-ce que je voulais amener la musique. Et donc après, j'ai continué à me former avec des cours. J'ai arrêté de vouloir faire des écoles supérieures. Et donc, j'ai continué à prendre des cours de musique, de chant, de danse, de théâtre, de plein de choses. Et en même temps, à créer ma compagnie et mon langage. Et du coup, voilà, j'ai une fac d'art plastique par le CNED qui s'est arrêtée en L2. Voilà,
c'est un parcours absolument fascinant que tu nous décris, de partir d'un peu de ce traumatisme justement qui a arrêté un début de carrière en quelque sorte, parce que du coup, tu te destinais à devenir vraiment musicienne et que tu t'es servi justement de tout ça pour rebondir et retravailler un peu tout ton rapport au corps, tout ton rapport à la musique, tout ton rapport au souffle. Donc c'est une pièce qui est vraiment, que tu proposes, donc ta pièce Ceci est un adieu au langage, donc c'est une pièce qui est fondamentalement très personnelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle, cette pièce?
Alors déjà, c'est une pièce sans mots. Et du coup, c'était comment en fait réinventer le rapport à la musique et à un instrument de musique? Puisque du coup, mon corps ne peut pas faire ça. En fait, comment il trouve ses chemins pour accéder à sa propre musique et via cet objet, en fait, parce que je pense qu'avant d'aimer la musique, j'ai aimé cet objet, et je pense que c'est ça qui peut parler un peu au spectateur, c'est que ben voilà, c'est enfin une relation qu'on a à un objet et toutes les mémoires, comment notre corps, quelles sont nos mémoires corporelles, nos résonances, et donc c'est un peu ça qui est évoqué. Et j'ai oublié le début de la question.
Bah, du coup, tu racontes un peu de ma question, c'est sur quoi ça parle, donc tu l'écris très bien.
Ça parle d'une perte, voilà, c'est pour pas, j'ai retrouvé le fil. Ça parle d'un essoufflement de quelqu'un qui perd sa parole, du coup qui perd son corps et ce lien à cet instrument de musique. Mais donc, du coup, c'est important qu'il n'y ait pas de mots dans le spectacle, parce que du coup, c'est tous les états de comment on renoue au langage et c'est quoi mon langage? Et comment je reconnecte, parce que je suis toute seule sur scène qu'avec des objets, et cet objet en particulier. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle ça un duo, parce qu'il y a un objet phare.
Justement,
qui est
cet instrument. Revenir là-dessus. Donc ce sax horn, du coup, qui est l'instrument que tu joues, il incarne aussi totalement un personnage dans ce spectacle-là que tu interprètes. Et du coup, comment est-ce que tu développes cette relation-là? Donc c'est une relation où tu explores la physicalité de cet objet avec lequel tu as appris à jouer, l'embouchure, les touches. Comment est-ce que ça s'articule un peu dans cette pièce?
Bah, y a eu quelque chose d'humaniser cet objet Parce qu'il y a des trous partout, il y a des pavillons, il y a des embouchures, des pistons, des tuyaux, des coulisses. Et donc, c'est comment, en fait, c'est quelqu'un qui fusionne et qui, du coup, en ayant fusionné avec un objet, s'objectifie elle-même.
C'est
donc
comme elle un membre en plus, quoi.
Ouais, comme une extension de membre, en fait. Et du coup, il y a une parole qui se perd parce que, du coup, elle fait qu'un avec un objet. Et donc, du coup, c'est comment la relation, au fur et à mesure, d'aller explorer d'autres objets, puisque cet objet ne résonne plus. C'est de chercher la résonance du corps pour revenir à l'objet et recréer des mémoires, en fait.
Et donc, du coup, toute cette relation-là, cet objet-là, tu retrouves ta voix à travers cet instrument-là. Et tu as aussi, du coup, pour retrouver ça, tu as composé toute la musique du spectacle,
ouais.
Si j'ai bien compris. Et comment, du coup, s'est déroulé ton processus d'écriture musicale ? Parce que j'imagine que pour essayer de retrouver un peu un bruit, un son, une manière aussi de pouvoir t'exprimer, tu dois partir dans des choses qui sont quand même assez abstraites, on va dire, en termes d'écriture. Ou alors, est-ce que tu t'es inspiré plus de compositions classiques, un peu plus évocatrices ? Comment est-ce que t'as abordé ce processus de composition ?
Il y a plein de choses différentes. En fait, la musique, étonnamment, c'était ce qui était le plus dur à créer. Et c'est ce qui est arrivé en dernier dans ce spectacle. Parce que je suis passée par plusieurs phases, que j'avais envie de comprendre qu'est-ce que le corps a comme musique, comme je disais tout à l'heure. Mais sauf qu'en fait, ça reste pas ça d'écrire de la musique. Donc comment on cherche des ponts entre le corps, l'objet, ce qu'il peut produire.
J'ai vu notamment que tu avais écrit sur des partitions. Tu avais essayé de mélanger un peu le langage musical avec des notes qu'on met habituellement.
Ouais.
Et aussi avec des gestes, avec une manière de synthétiser un peu sur des partitions, la manière dont les notes vont s'articuler avec les gestes. J'ai vu un peu des beaux dossiers que tu mettais là-dessus. Donc tu as essayé de travailler là-dessus notamment.
En fait, moi je dessine beaucoup. Et notamment, en fait, ce spectacle m'a fait renouer avec le dessin qui était très important pour moi. Et en fait, par le dessin, en fait, je suis passée par des hypnoses. Je me disais, c'est qui cet objet ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Et donc, je faisais 7 minutes d'hypnose. Et après, j'écrivais, je dessinais en gros tout ce qui me passait par la tête. Et après, du coup, je le mettais en dessin. Et pour moi, la force du dessin pour composer de la musique ou mettre en son, c'est que du coup, ça met toutes les dimensions à la fois. Et en fait, après, à partir de ces dessins qui étaient assez abstraits, j'essayais de traduire du vocabulaire musical, mais qui laisse une place au corps. Et je mettais aussi des verbes d'action. Ok, je vois telle action, telle action. En fait, il y a une diagonale, donc peut-être que sur scène, ça se traduit comme ça. Et donc après, ce vocabulaire musical, enfin, ces effets de traduction physique et sonore, après, venaient se rencontrer dans une écriture de plateau. Et du coup, je réécrivais tout, pas toute seule, parce que j'étais très bien accompagnée par une équipe qui m'a entourée.
On les embrasse.
On les embrasse.
Et on pense à eux. Mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes de partir justement. Parce que quand on pense par exemple à la traduction de la musique en des œuvres, on pense à Kandinsky par exemple, qui lui traduisait beaucoup ce que lui voyait à travers une forme de synesthésie, ouais, dans des œuvres picturales. Et toi, t'es un peu parti de l'inverse. C'est-à-dire que t'es parti des gestes et des dessins pour essayer de transformer ça en musique.
Ouais.
C'est hyper intéressant comme processus.
Bah, c'est gentil, c'est sympa.
C'est pour ça qu'on l'invite à la matinale.
Bah, oui, ouais, on a toujours des invités d'incroyable qualité. Et du coup, peut-être pour terminer un peu rapidement, je le dis tout court, que ce spectacle-là aura lieu les jeudis 12 février et 14 février à 19h30 au Théâtre du 3e type à Saint-Denis.
Tout à fait.
Je rappellerai à la fin de cet entretien. Et du coup, à quoi peut s'attendre vraiment le public en rentrant pour voir cette pièce ? La scène, l'idée, à quoi il peut s'attendre vraiment pour venir voir ça ?
Bah déjà, réservez, s'il vous plaît. Venez. Et c'est vraiment un spectacle sensoriel, parce que je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas vécu ce que c'est de perdre son souffle et de perdre un rapport à son corps.
C'est une expérience très singulière. Ouais.
Et donc du coup, c'est d'essayer de plonger les gens dans des sensations, dans un monde onirique où on ne comprend pas ce qu'on voit. Et du coup, moi, je ne cherche pas à faire c'est pas une autobiographie sur scène, c'est pas une dimension qui m'intéresse, mais c'est plutôt, j'essaie d'assumer cette histoire pour en fait comprendre quelle est l'importance de la musique et de rentrer dans des... Comment le son peut permettre de rentrer dans des sensations et de donner à voir le son, quoi.
Donc il faut vraiment que le public se plonge un peu dans cette espèce d'univers onirique que tu crées avec tous ces décors.
Il se crée son parcours, en fait, en tant que spectateur. Et je suis pas... J'ai mon fil narratif interne, mais eux, le but, c'est qu'ils vont recevoir des sons, des images, des mouvements, et c'est quel fil ils se créent pour ressentir peut-être une espèce d'empathie. Donc il n'y a que deux mots dans le spectacle que je ne vais pas dire, parce qu'il faudra venir du
coup. Il ne faut pas spoiler.
Et donc voilà.
C'est
donc c'est l'importance de cet adieu au langage. Comment en fait ces deux mots étaient emprisonnés dans cette recherche de paroles et dans ces objets,
Et cette recherche ensuite, de parole que tu abordes avec tantôt de l'humour, de la mélancolie, tantôt de la tristesse, vraiment que tu essaies de mettre tout ça en forme à travers la musique, le geste, les accessoires, ouais. Le théâtre d'objets un petit peu aussi.
C'est quelque chose, moi je me décris un peu comme une musicienne clownesque, enfin, de comment il y a cette rencontre et cette recherche de, ouais, de la poésie, de l'objet, mais qui passe toujours par une volonté de faire de la musique en fait.
En tout cas, on a hâte de venir voir le spectacle. Ça a l'air incroyable. Je le rappelle, ça sera le jeudi 12 février et le samedi 14 février à 19h30 au théâtre du 3e type à Saint-Denis. Lily Gaumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté ta nouvelle création. Ceci est un adieu au langage.
Merci beaucoup Vladimir et merci beaucoup Lily d'être venue. On va faire une dernière pause musicale en écoutant Canine de It Girls. Il est 19h54, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h.
Vous écoutiez It Girls, Canine de It Girls, et maintenant c'est l'heure de la chronique libre de Julie.
Et oui, aujourd'hui je voulais vous parler du fait que depuis début janvier, j'ai commencé à travailler. Wouhou !
Youhou !
Ma dernière chronique ici était sur la recherche d'emploi. Ça pourrait être un feuilleton de ma situation professionnelle, le dire à la radio à défaut d'avoir un conseiller France Travail à qui raconter tout ça. Mais je ne vous infligerai pas cela. Pas d'inquiétude, restez s'il vous plaît. En fait, j'ai commencé à travailler dans le social. Ah, le social. Mais quelle idée ! Quand on n'en peut plus d'entendre les atrocités du monde aux informations, il suffit d'élargir ça à l'entièreté de son temps de vie. Mais quelle idée ! Aujourd'hui, après avoir été confrontée à des personnes qui se font virer de chez elles à cause d'une maladie ou qui ont subi des viols pas plus tard que hier, recevoir ça en pleine face, en direct live, face à moi, je me pose sérieusement la question. Mais quelle idée ! Les gens qui travaillent dans ce secteur sont venus par eux-mêmes. Ils l'ont décidé en pleine conscience, maîtres de leur mouvement, avec l'espoir d'aider certes, mais la conscience que les services sont saturés. Alors pourquoi ? Pourquoi on se met par soi-même en plein milieu de la misère du monde ? Et aujourd'hui, j'ai une idée, une réponse, une intuition. on y vient pour se forger le cœur. Taper dessus pour le rendre plus fort. Pas pour rester de marbre, pas pour en faire un cœur de pierre. Lui donner des coups, oui, mais pour le sculpter, pour l'affiner. Devenir forgeron de sa sensibilité. Se forger un cœur, ce n'est pas devenir maître de ses émotions, car j'aime bien ça, me laisser porter. Mais se forger le cœur, c'est l'entraîner à encaisser, à rester sensible sans s'effondrer en sanglots. Se forger le cœur, en écoutant, en croyant, en gardant espoir dans cette humanité, en demandant, se renseignant, se heurter aux histoires et se faire sa propre idée. Je veux forger mon cœur. Pas le casser, le briser, le percer ou l'exploser, non. Je veux forger mon cœur, le modeler, le préparer, l'entraîner, le magnifier. Taper dessus pour lui donner une forme magnifique. Rester empathique, aider dans la pratique. Savoir ce qui se vit pour l'embellir, tout simplement. C'est le choix de mettre les pieds dans le plat plutôt que de vivre dans le déni. Pourtant, c'est agréable le déni. C'est en fermant les yeux qu'on peut s'endormir sur ses deux oreilles. Mais en fermant les yeux, on a plus de chances de foncer droit dans le mur. Alors contre le déni, informez-vous. Écoutez-les. Écoutez les gens. Sans a priori ou jugement. Apprenez, écoutez, restez curieux de tout. Parfois, on peut déprimer face à l'état du monde, devenir éco-anxieux ou simplement se résigner. Mais ne doutez pas de l'importance de ce que vous faites en vous tenant informé, en continuant de vous indigner. S'auto-infliger des électrochocs au cœur, c'est pour qu'ils aient l'effet d'un défibrillateur. C'est pour rester vivant, sanguin, passionné et plein de vie. C'est reprendre sa dose de courage et d'énergie. On ne sera ni des imbéciles heureux, ni des savants dépressifs. On sera des forgerons de cœur qui savent lancer des feux d'artifice.
Waouh, merci Julie pour cette chronique poétique et politique, un peu à l'image de cette matinale d'ailleurs. Et je crois qu'on est en train de clôturer cette matinale. Et bah c'est déjà la fin. Ce soir, vous étiez en compagnie de Anaïs
la
pour l'interview.
De 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'est déjà la fin de cette matinale. Ce soir, vous étiez en compagnie de Anaïs pour l'interview, de Vladimir pour le Zoom et le Flash Info, de Tiana et Julie pour leur chronique, de Aude et Julie à la réalisation. C'était Diane à la présentation, bien sûr Jeanne et Aude, les meilleurs services civiques à la coordination. L'équipe de la matinale de 19h vous souhaite une très très bonne soirée et vous retrouve demain, même heure. Les autres matinales sont bien sûr disponibles sur radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Et tout de suite, c'est On se lève et on se casse. Bonne soirée et à bientôt sur Radio Campus.